L'écho des gnous, votre guide dans le monde libre. Sur Radio Campus 106.6, le libre n'est pas une jungle. Le libre n'est pas une jungle comme le logiciel privateur. L'écho des gnous.
Bonjour et bienvenue dans le 291e numéro de l'écho des gnous, l'émission qui vous explique l'informatique libre et qui aujourd'hui commence avec un peu de retard. Nous nous en excusons, nous sommes voisins d'un stade de foot et c'est parti quand même pour durer un certain temps. Donc il se peut qu'il y ait des difficultés de circulation et de stationnement, mais bon. On a perdu 5 minutes, mais on assure le reste de l'émission et on va vous présenter l'actualité des 2 semaines écoulées avec Pierre. Bonsoir Pierre.
Bonsoir.
On va commencer comme de coutume par des actualités internet et vie privée. Et là, c'est une actualité que j'ai vue dans Le Monde. Donc sur l'utilisation des données publicitaires comme outil de surveillance. Alors, on en parle régulièrement, des cookies, des data patterns qui...
Du fingerprinting, tout ce qui est utilisé pour suivre toute votre activité en ligne.
Donc, c'est vrai que jusqu'à présent, on pouvait se dire, bon, en gros, telle entreprise, c'est que j'ai consulté tel site. Bon, pour le coup, ok, on peut dire ça m'embête, mais au final, est-ce bien grave? Et en fait, ces données, ça intéresse beaucoup toutes les personnes qui aiment la surveillance, c'est-à-dire les polices, les services secrets et les polices de l'immigration telles que l'ICI, de très sinistre réputation, la Gestapo américaine, on va l'appeler comme ça, prenons pas de pincettes. Donc cette merveilleuse technologie a un nom, c'est l'ADINT. Pierre, est-ce que tu en avais déjà parlé? L'Advertising Intelligence. Ouais. C'est donc lié des cookies publicitaires. Alors, autant c'est relativement aisé pour un utilisateur, on va dire, averti sur un usage web. Il faut faire refuser les cookies ou alors, carrément, si on n'a pas confiance, utiliser le mode privé du navigateur. Or, si on est l'heureux possesseur d'un smartphone, et là je vais voir le regard narquois de Pierre, si on utilise pas mal d'applications, c'est plus compliqué. Alors personnellement, je refuse de la géolocalisation, sauf si vraiment il y a une nécessité, parce que beaucoup d'applications en fait demandent la géolocalisation pour un oui ou pour un non. Donc voilà, ça c'est une manière de s'en prémunir. Une bonne pratique, c'est de limiter au maximum les autorisations qu'on donne à l'application. Bon, c'est de l'hygiène numérique. Et donc, qu'est-ce que vendent ces entreprises? Donc, le fait de pouvoir associer, alors normalement de manière anonyme, des mouvements de personnes à une localisation. Donc, savoir que telle personne s'est déplacée ici, 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 ici. Donc, avec le fingerprint, on peut finalement arriver à identifier quelqu'un, quelqu'un qui a ses habitudes. Alors, ces entreprises-là vendent jusqu'à 85% de personnes identifiées. Sauf que c'est faux, en fait, c'est plutôt 85% d'échecs. Et en réalité, ces entreprises-là affirment plus bas que, en fait, c'est 15% en fait qui sont capables réellement d'identifier, ce qui est déjà beaucoup. Dans beaucoup de cas, en fait, la géolocalisation est fantaisiste. Surtout si vous mettez pas votre GPS activé, ça peut fausser les données. Après, je sais pas si ça envoie par triangulation la position à partir des bandes.
Sur le téléphone, il y a plusieurs niveaux de géolocalisation en fait. Sur le téléphone, même quand on active la géolocalisation, elle est imprécise si on n'a pas le GPS qui est activé. Il faut savoir ça. C'est sur le téléphone, on a soit la localisation n'est pas donnée par le système à l'application, soit la localisation est donnée de manière imprécise, donc uniquement sur la base des bornes GSM, donc c'est de la triangulation. Donc ils vont en fonction des bornes qui captent leur puissance. Il détermine à peu près où est-ce qu'on se situe. Il peut essayer aussi d'utiliser les réseaux Wi-Fi captés pour avoir un emplacement plus précis, parce qu'il y a des cartes disponibles en ligne de l'ensemble des réseaux Wi-Fi sur la planète. Et le niveau le plus précis, c'est avec un GPS. Maintenant, Là, c'est une question, j'ai pas de réponse à ça malheureusement, c'est une question assez ouverte. Il avait été démontré qu'avec juste la fonction d'accéléromètre du téléphone, donc ce qui permet de faire une boussole, ou ce qui permet de savoir à quelle vitesse vous marchez, ou vous courez, ou vous déplacez en peu importe, que ce soit voiture, vélo, avion, patin, roulette, ça c'est juste un accéléromètre, donc le téléphone en fait il a juste une petite puce qui est capable de dire ben voilà, on se dépasse sur tel axe à telle vitesse. Et en fait juste avec ça, il a déjà été démontré qu'on pouvait faire une localisation si on l'enregistrait sur une durée suffisamment longue.
Avec le profil de la route, les feux rouges, permet de savoir où est-ce qu'on s'est arrêté. Oui, tu nous l'avais déjà dit lors d'un épisode précédent, Pierre. Alors, comble du cynisme, hein, les entreprises disent bon ben voilà, nous on fournit juste des données, après les polices, les organisations gouvernementales, que bon là ils se s'abritent derrière le fait qu'ils ne vendent ces logiciels qu'à des organismes gouvernementaux, hein, qui sont prêts à payer jusqu'à plusieurs millions de dollars. Et qu'est-ce qu'ils nous disent? Ben oui, mais en fait vous avez accepté en fait de transmettre les données puisque ben, vous avez accepté les cookies. Alors que bon là, la réglementation européenne elle est très claire, vous consentez en fait au dépôt de cookies, mais uniquement à l'usage qui est indiqué, donc l'usage publicitaire. Hein. C'est pas pour se faire espionner par des polices ou des services secrets ou ce genre de choses. Donc voilà, c'est quand même, on a du mal habituellement à illustrer en fait, le danger. Des cookies en fait pour la vie privée. Bon, on a eu quelques exemples ciblés avec les voilà, c'était pas les cookies, c'était les recherches internet qui ont permis de en fait de condamner une femme pour avortement dans un état américain qui l'interdisait désormais. Voilà, c'est des exemples plus concrets. Alors vous avez toujours le cœur des oui, mais si j'ai rien à reprocher, au final je ne crains rien, sauf que l'Amérique de Donald Trump est en train de montrer que on peut facilement se faire reprocher quelque chose. Voilà, c'était pas une nouvelle très optimiste, mais bon, on fait avec le contexte actuel. Pas très optimiste, allez, presque amusant. Hein. Free s'est pris 42 millions de dollars d'amende par la CNIL.
D'euros, on est
rendu. D'euros, pardon. Nous sommes, oui, voilà, à force de parler des États-Unis, on finit par faire des coquilles. Donc 42 millions de dollars, donc qui se compose d'une amende pour Free, l'opérateur fixe, et Free Mobile. Donc c'est 27 millions pour Free Mobile et 15 millions pour Free, l'opérateur téléphonique. Et c'est pas innocent que les deux entreprises, donc les deux filiales bon, du groupe Iliad, donc détenues par Xavier Niel, étaient toutes les deux condamnées, puisque en fait c'est le croisement en fait des fichiers clients entre ces deux entreprises qui a permis de oui, parce qu'en fait si tu étais client chez Free,
oui.
Voilà, en fait l'attaque est venue de chez Free Mobile, et si en plus tu étais client également chez l'opérateur téléphonique, bah, ils avaient aussi ton IBAN.
Oui, ça c'est...
Alors,
c'est...
Et tu aurais, Pierre, donc une anecdote personnelle nous fournir.
Ayant travaillé sur les paiements par carte bancaire et prélèvement bancaire, juste ça c'est une différence majeure entre l'IBAN et la carte bancaire. Donc lorsqu'on fait du prélèvement bancaire automatique, c'est avec l'IBAN, donc le numéro de compte. Et là-dessus, la réglementation est extrêmement différente. La carte bancaire, il est interdit de la stocker, en clair. Il n'y a pas le droit. Et de toute façon, même pour du paiement récurrent, on n'a pas besoin de stocker le numéro de la carte bancaire, en fait.
Donc comment ça se passe concrètement? Parce que beaucoup d'applications, de sites vous proposent, moi je le fais quasiment jamais, mais...
Le paiement récurrent par
voilà,
carte bancaire.
Voilà, c'est ça. Si enregistrez votre carte bancaire pour des paiements ultérieurs.
En fait, ça n'enregistre pas la carte bancaire, ça fait un premier paiement, donc une première transaction, une première autorisation, si nécessaire à 0 euro. Et ensuite, donc, la banque donne un identifiant d'autorisation, et c'est cet identifiant qui peut être réutilisé ad nauseam derrière, pour faire tous les autres paiements. Donc l'entreprise n'a même pas le besoin technique de stocker le numéro de carte bancaire. À l'inverse, par contre, sur du prélèvement bancaire, à chaque demande de prélèvement, la banque doit envoyer un numéro de mandat, donc qui vous est donné lorsque vous validez votre paiement, et que bien sûr vous signez, remplissez et renvoyez par courrier à l'entreprise qui prélève, c'est bien connu. C'est la règle, hein, encore aujourd'hui, normalement.
Sauf que il arrive que voilà, vous souscrivez à un service qui fonctionne par prélèvement et vous n'avez pas encore renvoyé le papier qu'on vous a prélevé quand même.
Oui, ben ça, c'est parce que les entreprises, elles passent outre parce qu'en fait, les gens ne renvoient pas les papiers. C'est un autre problème. Mais donc, dans tous les cas, à chaque fois qu'il y a un prélèvement qui est fait, l'entreprise doit renvoyer à la banque, à sa propre banque, qui va derrière faire les demandes auprès de, des banques, des clients, donc de vous. Elle doit renvoyer un fichier avec « Je dois prélever au titre du mandat machin 42 sur le compte ABCDEF. » Et je dois prélever sur le compte BCDE. Et etc. Donc, l'entreprise est obligée de stocker en clair les IBAN. Et ça, c'est un techniquement, c'est une énorme connerie qui date de 2000, de la mise en place du prélèvement CEPA, donc ça date de 2012, ça fait plus de 15 ans que cette connerie a été faite, et à l'époque on savait déjà que c'était une mauvaise
idée. C'est-à-dire que 2012, c'est pas antidéluvien, quoi. Alors, des fois on a des failles de sécurité qui datent de l'époque, voilà, de 30, 40 ans, parce qu'on s'est pas fait autrement, mais enfin 2012, le chiffrement c'était quand même quelque chose.
Voilà, et en fait, les banques se sont défaussées complètement sur les entreprises en disant hop, c'est pas notre responsabilité, nous on prend le fichier et puis c'est votre problème de la sécurité. La banque, elle sécurise juste le transfert du fichier avec elle, mais les entreprises sont laissées clairement à poil. Là, c'est le cas de Free. Alors, Free, ils ont abusé. Hein. Lorsque la fuite a été repérée, ils ont mal communiqué. Ils stockaient des données pendant plus de 10 ans sans aucune raison. Il y avait des gros problèmes.
Alors, plus de 10 ans, c'est qu'à priori, ils avaient normalement un mécanisme de nettoyage, mais il marchait mal.
Voilà. C'est pas bon.
La question que je pose quand même, hein, alors t'as pas de travail dans le secteur bancaire non plus, mais est-ce que, parce que voilà, le problème de l'IBAN, c'est en théorie, ça risque rien, on peut juste vous donner de l'argent. En théorie. Ah mais sauf que, voilà, en théorie, on n'est pas censé pouvoir faire un prélèvement sur votre compte avec un IBAN sans votre autorisation.
Si.
En théorie.
Si, on peut. Attention, en théorie, on doit vous demander une autorisation signée. Mais j'ai envie de dire, quelqu'un qui remplit un papier pour vous et qui met un X au bout, ou qui met n'importe quoi comme signature, l'entreprise ne peut pas savoir que ce n'est pas la bonne signature. Donc déjà, il y a cette limite-là. Mais par contre, là où il y a une garantie, c'est que la banque, pendant 60 jours, si un prélèvement arrive depuis un mandat qui n'a pas été utilisé avant, la banque, elle n'a rien à dire. Vous lui dites, je veux annuler ce prélèvement, la banque, elle doit l'annuler avec 0 centime de frais.
Je me pose, est-ce que voilà, si c'est des acteurs qui ont pignon sur rue, un opérateur téléphonique, un fournisseur d'énergie, on va dire qu'il y a présomption de raison, et si c'est quelqu'un d'anonyme, est-ce qu'ils vont. Il y a un filtrage là-dessus.
Ça, par contre, c'est propre aux banques, ça, on ne pourra pas le déterminer. Mais dans tous les cas, ils acceptent le prélèvement par défaut, point. Même si ça vient d'anonyme, normalement.
Amazon lance son cloud souverain. Rien que le nom, ça fait rire, en fait.
Hein. Bah, oui.
C'est-à-dire que bon, toute personne n'ayant pas entendu parler du Cloud Act va sourciller très très fort. Hein. Je ne te vois pas sourciller, Pierre. Les éditeurs qui n'ont pas l'image ne voient pas Pierre sourciller. Là, c'est tellement gros. Bon. Ils peuvent faire toutes les courbettes qu'ils veulent, argumenter autant qu'ils veulent. À partir du moment où ils sont soumis à une législation extraterritorialité. Je ne vais pas renoncer, Pierre, à le prononcer correctement. Donc, ils doivent obéir en tant qu'entreprise américaine, même si c'est une filiale européenne aux lois américaines et donc aux injonctions du gouvernement américain. Et ne parlez pas de contre-pouvoir au pouvoir exécutif américain actuellement. Et sur demande donc du gouvernement américain, ils doivent fournir des données sur n'importe quel de leurs clients. Sauf peut-être les clients américains, parce que le principe de droit américain, c'est attention, protection des droits de l'homme et protection des droits civils aux Américains. Enfin, ça c'était avant. Par contre, les étrangers, on fait ce qu'on veut avec.
Et je vais embrayer aussi sur une autre actualité en lien avec ça. Mais donc oui, là, la grosse difficulté, c'est que Amazon affirme, oui, donc notre cloud est souverain. Donc
il est en Europe, physiquement, voilà. Et vous garantissent que c'est stocké
des serveurs sur le sol européen et que c'est géré par une entreprise européenne.
Bon, Microsoft, c'est à peu près le même avec leurs offres Azure.
Tout à fait. Et ce que dit Amazon là est vrai. Mais l'entreprise européenne est une filiale de AWS, entreprise américaine. Et la loi américaine est très claire, la filiale est sous le coup des réglementations européennes, que ce soit donc les Cloud Act, FISA, et surtout, elle est aussi sous le coup d'une autre menace américaine qu'on n'en entendait pas parler avant, mais c'est là, avec les tensions ces dernières semaines, c'est une grande nouveauté. Les États-Unis commencent sincèrement à menacer de couper les entreprises technologique américaine en Europe.
Alors, on n'en a pas trop parlé parce que ça devait tomber en fait pendant des congés. Pourtant, voilà, bon, on n'était pas très disponible. Mais c'est arrivé à un juge de la Cour pénale internationale à La Haye, un juge français.
Tout à fait. On avait parlé du cas de Thierry Breton dans cette émission.
Ouais, ouais. Thierry Breton, c'est moins dur. C'est en gros, il n'a pas le droit d'aller aux États-Unis.
Qui ouais, un cadeau. Mais là,
pour le coup, le mec se voit quand même privé de compte, non seulement de compte sur les entreprises américaines, mais de ses moyens de paiement Visa et Mastercard.
Tout à fait.
C'est-à-dire que désormais, avec la généralisation des cartes de paiement, c'est quand même très compliqué.
Et là-dessus, c'est encore plus compliqué en France, en fait.
La France, moi, est-ce que le fait qu'on ait notre GIE carte bancaire peut minimum nous sauver
ou, oui et non.
Oui et non.
C'est plus compliqué du coup en France. En France, effectivement, les sanctions américaines sur les moyens de paiement ne marcheraient pas aussi bien. Bon. Elles ne marcheraient pas pour les paiements en magasin, elles ne marcheraient pas pour une partie des paiements en ligne. Sauf que si le paiement en ligne utilise 3D Secure...
Il n'y a pas marqué carte bancaire, il n'est pas marqué...
Les logos ne sont plus appliqués. Mais
pas sur toutes, mais sur une, oui.
Et donc, en ligne, par contre, ce qui ne marcherait plus de manière certaine, c'est tout ce qui est 3D Secure. Donc, c'est quand on vous redemande un code envoyé par SMS ou ce genre de choses pour valider le paiement. Ça ne marcherait jamais parce que ça, c'est entièrement hébergé aux États-Unis.
Sauf que le fait de manière sanction ciblée, ça marche. Et c'est-à-dire que là, pour le coup, si vous interdisez l'e-commerce, c'est-à-dire qu'il y a une grosse entreprise américaine qui risque d'en pâtir parce que le marché européen, c'est quand même 500 millions de personnes.
Et je crois que Trump s'en fout de ça et le gouvernement américain s'en fout. Là, ils sont en mode
C'est-à-dire qu'il y a un moment, il se couche devant lui parce qu'il n'y a pas le choix. Si vous commencez à faire perdre un demi-million de clients parmi les plus riches de la planète...
Un demi-milliard
de clients qui sont quand même plutôt dans la partie riche de la planète, à l'échelle de la planète. C'est-à-dire que tous les Européens sont riches, avec des pouvoirs d'achat les plus élevés de la planète, ça risque de mal se passer.
Oui, mais c'est pas du... Là, par contre, tu réfléchis sur du très très court terme. Oui, à très court terme, ça se passerait mal, mais la logique derrière ce genre de décision, c'est de dire ça va les mettre dans la merde et ils vont plus avoir le choix que de se plier à nos exigences.
Sauf que la vision stratégique de Trump, c'est que là, du coup, ça va aussi, je pense, inciter à dire on va peut-être faire sans les États-Unis. C'est un peu ce qui est, c'est un peu l'effet délétère, c'est que non seulement ça va mettre certains pays, ça va les jeter dans les bras de la Chine, et surtout, en fait, tant qu'il n'y a pas de menace, ça va passer, mais ça va aussi entraîner les Européens à une prise de conscience. Faut pas non plus surestimer Trump, c'est un bourrin. Il s'est utilisé avec la puissance, mais enfin, le jour où ça ne marche plus, il est un petit peu à poil. On va parler un fichier français, monsieur, le FNAEG, le fichier national des empreintes génétiques, donc qui à la base était uniquement destiné à résoudre les plus sordides affaires de viol et compagnie, qui maintenant, vous pouvez donc subir un relevé d'empreintes génétiques si vous avez soupçonné d'avoir participé à un abattage de champs d'OGM, parler d'un exemple. Et donc, il y a 7,4 millions de profils, c'est-à-dire plus de 10% de la population française. Après, je veux dire, il n'y a peut-être pas que des Français dedans, puisque c'est tous
ces des profils génétiques, voilà. donc on ne sait pas qui dedans.
Bon, essentiellement des Français, puisque l'essentiel de la délinquance en France est quand même française, contrairement à ce que peuvent prétendre certains. Mais voilà, donc les étrangers qui ont pu commettre des infractions en France, ils sont dedans. Donc ça ne garantit pas qu'il n'y ait que des Français. Donc ça a été créé donc suite à l'affaire Guy Georges.
Oui.
C'était l'affaire Guy Georges. J'aurais eu un film là-dessus en disant regardez, c'est grâce au profil génétique qu'on a pu le coffrer. Ce qui est objectivement vrai.
Oui, et par contre, ce qui est objectivement vrai aussi, c'est que Dominique Pellicot, donc le fameux de l'affaire de l'année dernière, avait été présent dans le fichier. Son ADN correspondait avec une tentative de viol. Et donc la police l'avait repéré en 2010, avant
les
affaires sur sa femme. Mais voilà, un fichier, ça ne suffit pas. Il faut qu'il y ait des moyens derrière d'utilisation, des moyens, des enquêtes, etc. Donc, même pour la cible initiale du fichier, ça n'a pas marché. Oui. Donc bah, maintenant, on l'étend à n'importe qui. C'est ridicule.
Ah, c'est comme dans un autre registre, hein, pour les promoteurs des caméras de surveillance, hein, l'auteur de l'attentat Nice était très bien filmé en train de préparer son coup.
C'est vrai.
Hein, ou les centaines de caméras qui ont filmé donc les terroristes du 15 novembre dans tout Paris. Ils ont été très bien filmés, bon, on les a pas retrouvés vivants. Bon, sauf, non même pas un, on les retrouve en Belgique. Donc, non seulement c'est potentiellement liberticide, et en plus ça ne remplit pas son but. Le but qui peut être effectivement légitime.
Juste un rappel, oui. Les traces sont stockées 40 ans pour les personnes condamnées, les personnes décédées, les personnes disparues, mais aussi pour les personnes ayant eu un classement sans suite ou même un non-lieu ou une relaxe.
Oui, oui, c'est un chiffre intéressant. Hein. Attention, on va dire, oui, mais attention, c'est des profils de criminels. 75% des entrées dans le fichier, en fait, ce sont des personnes soupçonnées, ce sont des personnes qui ont fait l'objet de poursuites, mais qui n'ont pas été condamnées.
Voilà.
On passe à des nouvelles logiciels libres, bien évidemment, après un premier morceau de musique. On va écouter Major Major, Chinese Drop. Vous écoutez les codes nous sur Radio Campus en 6,6, la radio numérique terrestre et Campus Lille. Encore.
The police smash your face. You know they will if you step out of things. Oh yeah. In any case, they use their mates. The human race they will erase without a trace.
C'était Major Major, Chinese Drop. Vous écoutez les codes nous sur Radio Campus. C'est la deuxième partie des actualités. On va parler logiciel libre et logiciel libre, système d'exploitation libre, de clone de Windows. Est-ce que le mot est propre et vous convient, Pierre?
Ah oui, tout à fait.
ReactOS.
Clone, c'est une réimplémentation, le terme exact normalement, réimplémentation.
Et tu pourras aussi, du coup, quelle est la plus-value par rapport à un système, enfin, un logiciel comme Wine, par exemple.
Tout à fait. Alors, ReactOS, c'est un système d'exploitation qui est encore en développement. Hein. C'est une curiosité plus que quelque chose d'utilisable aujourd'hui, même si ça peut avoir un intérêt pour certains cas d'applications antiques à faire survivre, on va dire. Donc en fait, le projet a commencé il y a 30 ans, donc il est né des cendres d'un autre projet qui visait à réimplémenter à l'époque Windows 95, et donc il a été recréé, le ReactOS a été recréé en 1996, pour cibler à la base ce qui s'appelait Windows NT, donc ce qui est le cœur de tous les Windows modernes. Et donc, le but de ReactOS, c'est d'avoir un système d'exploitation qui soit entièrement libre et ouvert, mais qui soit compatible avec les applications et les pilotes de périphériques Windows. Alors, c'est un chantier colossal, c'est un chantier qui n'est pas finissable concrètement, y aura jamais de fin à un chantier comme ça. Mais il y a beaucoup de choses qui sont déjà faisables sous ReactOS qui sont assez...
Et du coup, est-ce qu'ils se mettent à jour aussi? Parce qu'entre Windows NT, bon, qui est la base des systèmes Windows actuels, et Windows 11, il y a quand même des...
Alors, il y a un
choix. Qui ont changé.
Il y a un choix, c'est de se... Alors non, attention, ça, on en parlera une prochaine fois, mais ça, non, il n'y a pas d'API qui ont changé. C'est la particularité de Microsoft. C'est... On ajoute des choses, mais on n'en supprime pas et on n'en modifie surtout pas. Mais donc, Windows a évolué. Windows NT, le cœur de Windows, évolue aussi. ReactOS, leur cible, c'est de rester compatible avec toute la période jusqu'à Windows 7 inclus. Parce que beaucoup considèrent que c'est l'âge d'or de Windows et qu'il y a beaucoup de régression depuis sur Windows. Alors, n'étant pas spécifiquement utilisateur, je ne vais pas me lancer dans ce débat, même si, bah, effectivement, il y a énormément d'avis extrêmement négatifs sur les dernières évolutions de Windows 11. Et a priori, il y a raison, vu le nombre de bugs qu'il y a. Mais... ReactOS, c'est intéressant à la fois pour comprendre comment fonctionne Windows, parce que ben il y a eu tout un travail justement d'analyse du système, et c'est intéressant aussi éventuellement pour ressusciter du vieux matériel sur lequel ben Windows ne marche plus. Si on veut avoir l'équivalent d'un Windows 7 qui soit encore mis à jour, ben ça peut être une solution. Tout dépend après des usages. Après,
le système. Est-ce qu'il y a bien les mises à jour de sécurité du coup sur ReactOS? Ben, c'est pas juste un projet de recherche entre guillemets.
Ah, c'est pas juste un projet de recherche. Après. Personne ne cherche de failles de sécurité sur ReactOS, il doit y en avoir un certain nombre, mais si on leur signale des bugs, ils vont les corriger et c'est encore mis à jour, contrairement à Windows 7 qui n'est plus supporté du tout.
Alors, Wine 11.0 est dispo, ça c'est l'actu suivante, mais alors du coup, quelle est la nuance, du coup, l'intérêt de ReactOS par rapport à Wine?
Alors, déjà, on va reparler de ce que c'est Wine. Donc, Wine, c'est une solution pour faire tourner des applications Windows. Alors, sous Linux et accessoirement sur macOS. Et même sur 2-3 autres systèmes exotiques. Wine, en fait, ne réimplémente pas tout Windows. Il y a des choses qui ne seront jamais compatibles avec Wine. Imaginons, vous avez un logiciel... Alors, je vais prendre un cas qui ne parle pas forcément au grand public, mais c'est vraiment pour illustrer. Vous avez un logiciel pour gérer un matériel particulier. Mettons un oscilloscope... Donc un appareil pour faire de l'électronique, et c'est un appareil que vous devez brancher à votre ordinateur pour faire les manipulations, et vous avez un logiciel qui communique que avec ce matériel, et vous avez que ce logiciel Windows-là, qui nécessite en plus un pilote Windows. Ça ne marchera a priori jamais dans Wine, ça marcherait dans ReactOS. C'est ça la différence. Wine, ça fait tourner, par contre, la plupart des applications normales, entre guillemets.
Donc dans une application... industriel ou pas forcément industriel. Voilà. Bon, l'industrie étant un des principaux
utilisateurs de ce genre de matériel.
Oui, parce que voilà, il y a du truc très spécifique où voilà, le driver il va exister pour quelques dizaines ou quelques centaines d'utilisateurs ou alors des besoins. Voilà, on est quand même sur le marché de niche. ReactOS, ça peut répondre aux besoins.
Tout à fait. Et Wine, par contre, ça répond aux besoins de beaucoup plus de monde qui est je change de système, mais j'ai besoin encore d'utiliser telle ou telle application Windows. Et même des fois, des applications qui ne marchent plus correctement sous Windows, ça arrive aussi. Il y a quand même malgré tous les efforts de Microsoft, il y a des applications qui ne sont plus compatibles. Wine a quand même la possibilité de faire encore marcher des applications qui ciblent des vieilles versions de Windows sous Linux de manière correcte. Et en fait, donc là, la version 11 de Wine, elle a énormément d'avancées grâce à tout le travail qui est fait par l'éditeur de jeux vidéo Valve, puisque c'est ce qui leur permet de faire tourner la plupart des jeux du marché sur leur console, puisque leur console fonctionne avec Linux et pas avec Windows.
Le retour de JPEG XL dans Chrome.
Oui, il est parti, il est revenu, il est reparti, il est revenu, c'est n'importe quoi.
Et donc, est-ce que ça va vraiment
changer
prendre
les choses?
Oui.
Alors prendre, j'aimerais bien. Changer les choses, ben du coup, j'aimerais bien aussi. Parce que ben donc le format, si on demande aux gens les formats d'images, grosso modo, les gens vont répondre JPEG, c'est le plus connu. Éventuellement, 2-3 personnes vont peut-être connaître PNG ou penser au format GIF.
Bah, les gens le connaissent peut-être pas, mais ils s'en servent PNG. Mine de rien, c'est voilà, assez courant.
Oui, assez courant, mais c'est pas des formats très connus. Et surtout, bah, si on reçoit un fichier en pièce jointe et qu'on voit l'extension PNG, on peut penser que c'est une image, pas forcément sûr. JPEG, on sait que c'est une image. Ça, c'est reconnu par contre. Et GIF, on sait que c'est une image, mais souvent on pense à une image avec une animation. Le problème, c'est que le JPEG date d'il y a extrêmement longtemps. Le JPEG, ça date de plus de 30 ans, ce qui est une éternité à l'échelle de l'informatique. Et il y a eu des évolutions majeures dans le monde depuis la création.
Rappelons, l'intérêt de JPEG, c'est quand même la compression.
Tout à fait. C'est, au lieu d'avoir une image qui prend 40 mégaoctets pour une photo, elle peut en prendre 10 mégaoctets seulement. Avec, par contre, une perte de qualité.
C'est même l'équivalent du MP3.
Tout à fait. Mais l'algorithme JPEG lui-même, il est franchement vieux et on a fait beaucoup mieux depuis. Il y a eu des tas d'évolutions. Alors, Apple pousse ses propres formats, même s'ils sont compatibles avec JPEG XL. Google a essayé de pousser d'autres formats, mais ça n'a jamais pris. Et le JPEG XL, donc avec l'extension JXL, ben là, c'est une bonne nouvelle qu'il soit à nouveau intégré parce que c'est l'une des meilleures évolutions techniques. Et ça pourrait largement remplacer le JPEG si ça décolle.
Mais du coup, tu le vois plutôt comme, pour une même taille, avoir une meilleure qualité ou avoir la même qualité, mais en baissant la taille?
Alors, l'un des exemples qui est donné de ce qu'on peut faire avec JPEG XL, on peut prendre un fichier JPEG et en gardant la même qualité d'image exactement, ça va juste mieux le compresser et prendre moins de place.
Mais du coup, donc, vu l'époque est plutôt au gâchis de bande passante, au gâchis d'espace, est-ce que ça répond à une vraie problématique?
Ça répond quand même encore à des vraies problématiques, parce que même si on a plein d'espace, alors ça répond à une problématique moins pour les utilisateurs maintenant. Oui. Par contre, là, des gens que ça va intéresser largement, ça va être des Apple et des Google, par exemple, qui ont un intérêt à ce que le stockage cloud des photos, ils prennent moins de place pour la même qualité.
Donc il y a quand même un intérêt économique derrière.
Il y a un intérêt économique pour eux. Donc c'est pour ça que je ne comprenais pas déjà qu'ils les retiraient de Chrome temporairement. Là, ils l'ont remis, tant mieux. On verra aussi, normalement, Mozilla devrait la réintégrer, j'espère. Parce que pour l'instant, ça avait été intégré uniquement avec un paramètre caché pour l'activer. C'était ridicule.
Les distributions Linux devraient avoir de bien meilleures performances sur les cartes AMD. Merci Valve.
Oui, ça c'est pour illustrer. Alors on a parlé de l'éditeur Valve, donc l'éditeur de jeux vidéo juste avant. Ils ont encore amélioré les performances et c'est là où c'est beau à voir en fait. Valve paye des entreprises, paye ses développeurs pour améliorer les pilotes de cartes graphiques pour faire marcher ces jeux vidéo, ces consoles. Et du coup, ça profite à tous les utilisateurs de Linux. Parce que là, à partir de la version de donc 26 de Mesa, donc la version qui sera utilisée dans vos mises à jour de distribution Linux au printemps, vous aurez juste automatiquement des performances améliorées sur tout un ensemble d'applications. Alors, principalement les jeux, mais aussi possiblement sur des applications de graphisme, ce genre de choses, parce que il y a un éditeur qui pousse derrière. Et ça fait toujours plaisir à voir que là, c'est pas des gens qui ont travaillé sur leur temps libre, c'est des gens qui ont été payés et qui ont une certaine expertise, on va dire, pour améliorer la situation pour tout le monde.
C'est vrai qu'on dit beaucoup de mal de beaucoup d'entreprises. Alors, c'est pas avec plaisir, mais c'est vrai que Valve, rare qu'on leur reproche quelque chose. La dégeekalisation, c'est juste après un deuxième morceau de musique. Nous allons écouter Victoria Café, Granddaddy. Vous écoutez l'écho des gnous sur Radio Campus 106,6, la radio numérique terrestre et campusville.com. Waiting for my time to shine.
That is gone, I'm feeling so fine. Your fingertips, I come the night. I got a shatter in the dark of my mind. I meet you there, give me a sign. Oh, ain't got no watch to keep me running, waiting for the birds to fly. If life is a sweet misunderstanding, I don't want to waste my time to cry. Got a feeling in the back of my head, staying cool, what you said. I got a feeling in the back of my head, keep my eyes open when I'm in my bed. Daddy's gone, I'm feeling so fine. If life is short, just take your time. I got a shatter in the dark of my mind. Good things will come, just on the time. Oh, ain't got no watch to keep me running, waiting for the birds to fly. If life is a sweet misunderstanding, I don't wanna waste my time to cry.
C'était Victoria Café Grand Daddy, vous écoutez l'écho des gnous sur Radio Campus et c'est l'heure de la séquence que vous attendez tous et tous avec impatience toutes les deux semaines, c'est l'heure de la dégeekalisation. Le sujet du jour, Secure Boot et BitLocker, incompréhension pour tous.
Tout à fait Alexandre, je... Alors avec le titre tu as peut-être déjà la réponse.
42
Oui. Forcément, c'était facile. Donc, je suis arrivé à quelqu'un. Il a eu une console de jeu à Noël. La console de jeu, donc, c'est les... Maintenant, là, il y a une grande mode qui a été lancée avec les nouvelles puces d'AMD qui permettent largement de faire ce genre de console. Forcément, ça a ouvert le marché. Et donc, la console de jeu, elle fonctionne avec un Windows. Et donc,
c'est triste.
Il m'a dit ma console, elle démarre plus. Et donc la console au démarrage disait c'était clé BitLocker invalide, veuillez saisir la clé de récupération que vous pouvez récupérer en ligne sur votre compte Microsoft. À ton avis, Alexandre, quel pouvait être le problème qui faisait que ça marchait pas? Fun. Attention, tu as 5 secondes, sinon après je vais te donner la réponse parce qu'on va pas faire un blanc.
Je sais pas, il a débranché, branché quelque chose ou perdu plus les piles et perte de l'heure.
Alors, pourquoi as-tu parlé de brancher, débrancher quelque chose?
Ouais, parce que du coup, tu vas brancher un périphérique non reconnu, ça va changer l'empreinte de ta machine.
Exactement, tu triches, tu connais déjà un peu le sujet. On va parler de tout ça parce que franchement, je vois pas comment un néophyte peut comprendre et l'absence de messages d'explication sur ça, et c'est honteux, mais en même temps,
c'est censé accepter. Tu peux brancher quelque chose de non prévu sur la console, c'est comme un design fermé.
Tu peux brancher un clavier, non?
Ah, si, un port USB, oui.
Ben oui, un port USB. Mais tu branches un clavier, c'est pas interdit, que je sache.
Non.
Eh ben, si. Au démarrage, c'est là où c'est un peu de stupidité partagée entre beaucoup de gens, donc on va en parler un petit peu. Donc, tout d'abord, la technologie de chiffrement de disques de Microsoft, BitLocker, leur but, c'était de faire simple pour l'utilisateur. L'utilisateur, donc simplicité, ok, il faut pas qu'il ait à saisir un mot de passe au démarrage de la machine.
Ça complique le chiffrement.
Ça complique pour le chiffrement, puisque la clé, il faut bien qu'elle soit connue de quelqu'un quelque part. Donc, ce qu'a fait Microsoft... c'est en deux parties. Tout d'abord, il y a une copie de la clé de déchiffrement qui est envoyée à Microsoft. Et ben, pour info, ça a été confirmé là récemment. Oui, si la justice leur demande la clé de déchiffrement d'une machine, si le FBI leur demande la clé de déchiffrement d'une machine, ils la donnent, la clé. Donc les gens qui ont raisons de craindre l'État américain, par exemple, ont intérêt à ne pas utiliser cette technologie.
C'était valable dans le contexte d'un État de droit.
Tout à fait.
Voilà, maintenant que c'est open bar, bon, autre chose. Imaginez.
Mais donc, Microsoft a cette clé-là, mais comment qu'on fait pour déverrouiller la machine au démarrage? Et donc, c'est là qu'est utilisé Secure Boot. On a déjà parlé de cette merveilleuse technologie. Elle a deux facettes. Il y a la facette de vérification et la facette de mesure. Donc la vérification, ça, on en a déjà parlé parce que c'est une grosse source de problèmes pour les utilisateurs de Linux. Lorsque vous démarrez la machine, le processeur, c'est le premier élément qui démarre. Voilà, il reçoit du courant, il démarre dans tel état. Et on considère que voilà, personne n'y a touché. Il va commencer à faire des opérations, et quand il va commencer à vouloir accéder à quelque chose, il va dire, alors attends, là, ce que je suis en train de lire, est-ce que c'est conforme? Est-ce que c'est signé comme je m'y attends? Oui, c'est bon, je peux le démarrer. Et chaque étape va faire la même chose. Chaque étape va vérifier la suivante. Donc le processeur vérifie qu'il peut démarrer le logiciel intégré sur la carte mère de la machine, qui elle va vérifier qu'elle peut démarrer le logiciel qui démarre le système d'exploitation, qui lui va démarrer le système d'exploitation et vérifier du coup. C'est une chaîne de vérification. Ça, c'est la première facette de Secure Boot. Il y a une deuxième facette, c'est la mesure. Donc le processeur vérifie que l'étape suivante, elle est correcte. Ok, hop, j'enregistre ça dans ta info de mesure. Hop, l'étape suivante, elle fait une autre vérification. Ok, j'enregistre info de mesure. Et il y a une puce qui stocke des données confidentielles. Et si les mesures sont bonnes, alors elle peut donner la clé confidentielle. Et c'est comme ça que fonctionne le chiffrement du disque dur. La clé n'est valable que si les mesures sont restées inchangées. Du coup, la question, c'est qu'est-ce qui fait dans quel cas ça change ces mesures, puisqu'on n'a pas touché au matériel, non? Par contre, on a pu toucher au logiciel. Donc là, en fait, il y a toute une procédure qui est gérée de manière transparente par Windows pour modifier la clé de chiffrement de façon à ce que ça va fonctionner avec la nouvelle version du système quand vous faites une mise à jour. Mais là où c'est complètement flou, pourquoi la mesure n'a plus été la même? Parce que juste un clavier était branché sur le port USB. A priori, c'est une connerie de la part du fabricant de la machine lui-même. Il vérifie, il mesure, il dit alors, donc en périphérique, nous avons un écran, nous avons des boutons sur le côté de la console, et puis nous avons un clavier. Donc voilà, j'enregistre ça dans mes mesures. Ouais, sauf que le clavier, c'est de l'USB, donc ça peut être ajouté, enlevé à l'envie. Donc si tu veux que la console arrête de démarrer avec un message incompréhensible, tu branches un clavier. Voilà, ça démarrera pas. Tu débranches le clavier, ça va démarrer.
Et si tu branches le clavier après le démarrage?
Si tu branches le clavier après le démarrage, il n'y a pas de problème.
D'accord, c'est juste qu'il ne faut pas que ça boote avec le clavier.
Exactement. Et si tu branches le clavier, que tu saisis le mot de passe de récupération, et que tu démarres le système comme ça, et qu'après tu redémarres et que tu enlèves le clavier, ça ne va pas marcher. Parce qu'il aura retenu l'état avec le clavier branché. En fait, on a fabriqué un système hyper compliqué pour cacher un mot de passe. On a dit, non, il ne faut pas que l'utilisateur saisisse le mot de passe au démarrage, donc on va tout masquer de manière automatique.
En vrai, ça aurait fait suer beaucoup de gens de voir taper un mot de passe. Hein.
Oui, dans ce cas, tu demandes, est-ce que vous voulez saisir un mot de passe? Oui, non. Ou plus intelligent, et ça, c'est une direction qui est prise dans le monde de Linux, dire, on n'a pas besoin de chiffrer le système d'exploitation. Parce que, clairement, Windows, vous n'avez pas votre propre version de vos fichiers Windows, c'est pas une donnée privée.
Oui, alors que c'est le répertoire d'utilisateur, là où il stocke ses données personnelles.
Voilà, le répertoire personnel doit être chiffré, oui, mais le répertoire système, non. Et donc, on pourrait très bien imaginer avoir tout le système qui démarre et qui vous demande votre mot de passe d'utilisateur à ce moment-là. Et ça, c'est plus accepté.
Tu pourrais même donc chiffrer en même temps que tu t'authentifies sur le système.
Exactement.
Enfin, déchiffrer.
Mais ça vient avec d'autres contraintes, notamment si tu as besoin de changer ton mot de passe parce que tu as oublié l'ancien, tu perds les données. Est-ce que c'est une contrainte acceptable ou non? C'est pas à Microsoft d'y répondre de manière unilatérale comme ça en imposant un système. qui est trop complexe et qui n'est pas compréhensible pour tout le monde. Et là, bah, on parle d'une console de jeu, c'est pas un truc qui est destiné à des informaticiens professionnels.
Ouais, et puis même chiffrer une console de jeu.
Alors déjà, le chiffrement sur ça, j'ai du mal à voir l'intérêt, mais c'est pas un périphérique pour des professionnels. Pourquoi ils ont fait ça? C'est idiot, puisque ça baisse les performances, même si c'est marginalement, ça baisse les performances. Il y a des fonctionnalités pour rendre les jeux vidéo plus rapides qui ne sont pas possibles avec le chiffrement. Tout ça pour, à la fin, en plus, emmerder les gens si, ben non, non, là, vous rentrez pas dans la case, vous avez branché un clavier, c'est pas bien, fallait pas, parce que ça change la mesure. Ben ouais, la mesure, on peut pas juste le deviner et on peut pas l'expliquer.
Bon, ça montre encore qu'un, voilà, en sécurité, faire simple, intuitif et sécurisé, ça reste quand même compliqué.
Et faire dans le dos des gens, c'est une mauvaise idée, parce que personne ne l'a dit que c'était chiffré comme ça. Blague supplémentaire quand même.
Quelques actualités en vrac après un troisième morceau de musique. Nous allons écouter Alfonso Lugo. Bye, là, vous écoutez les Godets des Gnous sur Radio Campus 106,6, la radio numérique terrestre et consulte.com.
Qué bueno que soy pie hacia la derecha, mamá. Porque esta noche le daremos movimiento. Que uno, dos tequilas solo pa' calentar. Mire que aquí estamos pa' disfrutar el momento. Show me what you got, oh baby, dance for me, me das. Toda tu pasión y tu sudor, más vete lento. Que no tengo prisa, que esta noche da pa' más. Muévete, sorquito, aquí nomás. Baila, baila. Hasta que no me enamores, baby, tú. Baila, baila. Probaré tus sabores, baby, tú. Baila, baila. Enséñame tus colores, baby, tú. Baila, baila. Al beat de mi corazón. Sentiré cómo me bailas. Muévete rico, que no hay palabras pa' describir cómo en mi cielo tú te empalmas. Mueve tus pies, que bien sabes que yo contigo desde el bungee sin arnés. Y al oído yo te diré que el dirty talk se nos vendrá hasta en inglés. Oh yes, oh, yes. Baila, baila. Hasta que no me enamores, baby, tú. Baila, baila. Probaré tus sabores, baby, tú. Baila, baila, enséñame tus colores, baby, tú. Baila, baila, al beat de mi corazón.
C'était Alfonso Lugo. Baila, vous écoutez des Codes Gnous sur Radio Campus. Quelques dernières nouvelles. En bref, avant de se quitter, on va reparler de Free Mobile. Sur un angle plus technique, là, c'est donc, vous avez sans doute entendu parler, donc la 2G, c'est presque fini. La 3G, ça se termine également. Et donc Free Mobile, pour ceux qui... C'était il y a 14 ans maintenant. On suivait un petit peu la naissance du réseau, voilà, pendant longtemps. Free a beaucoup compté sur l'itinérance avec le réseau de l'opérateur historique Orange, itinérance qui est toujours en place, et donc a dû mettre au fur et à mesure à installer ses antennes pour avoir son propre réseau 3G dans un premier temps. Et là, donc Free Mobile a donc coupé les fréquences 3G, donc les 900 MHz sur 15 000 sites.
Tout à fait. Donc, quand on parle de sites sur ces choses-là, en fait, on parle d'antennes. Vous avez déjà vu les antennes relais qui fonctionnent un peu partout dans le monde pour
pas
faire
trop près, sinon ça grille.
Voilà. Bon, bah, faut pas être collé à l'antenne.
Faut pas être à 30 cm de l'antenne.
Non, ça, c'est une mauvaise idée. Effectivement, c'est. Faut pas être con non plus. Bref, donc, il y a des antennes partout et ces antennes, elles émettent sur des fréquences données avec des technologies données. Et donc, ben là, Free Mobile, c'est le premier des quatre opérateurs francophones, du coup, à avoir massivement éteint la 3G sur la fréquence de 900 MHz.
Francophone.
Pardon ?
Francophone ?
Ben, des opérateurs français, en tout cas.
Ah oui.
Je suis désolé, pas francophone au Québec, c'est pas les mêmes opérateurs. Voilà, nananer. Ni en Afrique, enfin pour les pays francophones.
Donc c'est pas le premier, des fois, tout en ça. Est-ce que tu as étudié la situation au Québec et au Mali, monsieur ?
Non, oui, voilà. Premier opérateur français.
Ce qui est déjà pas mal.
Donc, Free a coupé la 3G pour transformer ses sites en sites 4G. Donc, c'est-à-dire que vous n'allez pas perdre le réseau Free parce que vous étiez en 3G à cet endroit-là. Possiblement, vous allez juste passer de la 3G à la 4G.
Ça, si vous avez un très vieux téléphone.
Exactement. Et ça, par contre, ça reste un énorme débat. Et
alors, le débat, il est plutôt sur tout ce qui est système de télésurveillance, les systèmes d'alerte... pour les ascenseurs, donc les personnes dépendantes là, qui ont pareil, besoin d'être reliées. Donc,
les alarmes.
Surtout, ouais, voilà, bon, c'est pour ça que je parlais de télésurveillance. Donc avant, ça passait par le réseau téléphonique.
Et ça passe toujours par le réseau téléphonique.
Enfin, téléphonique, ça, le fameux réseau téléphonique commuté, les pierres cuivres, là, qui sont en train, ça y est, là, Orange a décidé au début de l'année de commencer à déconnecter les fils
commencent à être retirés, ouais. c'est terminé, le réseau cuivre, c'est fini. Mais voilà, pour un ascenseur, ce genre de choses, pendant plusieurs années, la solution c'était de mettre dedans une puce 2G, et on en a déjà parlé dans cette émission, il y a un gros sujet, c'est mais comment qu'on va faire, ça marche plus.
Alors, on aime bien se moquer des industriels, enfin voilà, des entreprises qui n'ont pas anticipé. Moi, je voilà, oui, vous auriez dû savoir que la 2G, la 3G, et bientôt la 4G, bientôt, un jour, la 4G sera donc démantelée. Oui, sauf que si une technologie rend le besoin, quelle est l'utilité de la changer ? Alors Pierre avait hors antenne une suggestion, c'était voilà de créer en fait un protocole, une fréquence indépendante.
Tout à fait. Mais
ça... Moi aussi, ça me choque. Moi, on aime bien se moquer en disant oh, vous n'êtes pas à la page, vous êtes nul. Sauf alors, que, voilà, si le système y rend le besoin, on ne va pas.
Et l'un des gros problèmes aussi pour la 2G, si vous avez une voiture relativement récente, vous avez un bouton d'appel d'urgence dans votre voiture qui fonctionne probablement en 2G, peut-être en 3G. Ça dépend de la marque et du modèle de votre voiture. Et cette fonction d'appel d'urgence ne marchera plus. Et ça,
c'est du monde qui s'en sert quand même. Je suis même pas sûr. Ce genre de bouton, je suis même pas sûr que ça fasse vraiment quelque chose.
Ben,
en même temps, tu me diras.
C'est une obligation légale de l'avoir et qu'il fonctionne par contre. Donc, sur les voitures, en fait, sur les voitures immatriculées à partir d'une certaine date, c'était une obligation légale. Et ça, c'est une obligation légale à l'échelle européenne. Et que les opérateurs aient utilisé la 2G pour implémenter ça, c'était logique. Mais encore une fois, moi, je note une chose. C'est juste 4 opérateurs qui arrêtent la 2G. Peut-être qu'il aurait fallu un opérateur spécifique en 2G pour tous ces appareils.
Et là, il faut une logique de service public, monsieur.
Ah merde.
Oui. Déjà, on est con, on fait 4 réseaux parallèles. Enfin, bref.
Donc voilà, la 3G se termine chez Free. Maintenant, il va y avoir des problèmes pour les gens qui n'ont pas moyen de mettre à jour le matériel, mais ça va probablement pas concerner des téléphones portables.
Alors l'IA sur Windows Explorer, tu as une minute Pierre.
Ouais, juste ça fait pleurer à force. Il y a beaucoup de gens qui se plaignent de Windows 11 qui grossit, qui prend du gras, qui est de plus en plus lent dont les mises à jour plantent. Et la priorité de Microsoft, c'est de dire on va rajouter de l'IA dans le gestionnaire de fichiers avec une barre latérale qui va être capable de...
D'ailleurs, récemment, le PDG de Microsoft s'est dit « Ouais, mais s'il vous plaît, utilisez l'IA un peu, on commence à se rendre compte que ça sert pas à grand-chose. »
Ben ouais, il n'y a pas assez de gens qui l'utilisent.
Bon, à part pour faire des visuels à la Bruno Mandeux.
Exactement, merci Trump.
Un petit point sur l'agenda. Donc, principalement, on va parler de la permanence de l'association Ch'tinux qui aura lieu, donc pour ceux qui nous écoutent en direct. Après-demain, le mardi 27 janvier, de 20h à 22h au Café Citoyen, place du Vieux Marché aux Chevaux à Lille. Plein de boissons bio et équitables et une ambiance fort sympathique comme de coutume. C'était le 291e numéro de l'Écho des Gnous. On se retrouve dans 2 semaines. Nous serons donc le dimanche 8 février,
à partir
de
dimanche,
19h, et il y aura peut-être des rames doubles sur le métro lillois.